Thank you. almost run out. I'm high as a kite, I just might stop to check to burn. When I'm a walking, I stop and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check to burn.
MGA, ah. RADIO, Mega Radio.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bonjour et bienvenue sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Il est 20h30 et vous écoutez le Zoom Écologie. Alors que le village de l'eau s'ouvre du 16 au 21 juillet prochain à la ferme de la Grenellerie pour s'opposer aux mégabassines et à leur monde, l'équipe d'Arpenter vous propose d'écouter une table ronde sur l'ouvrage « Avoir 20 ans à Sainte-Soline ». Nous avons eu le plaisir, lors du forum de l'engagement militant organisé par Extinction Rébellion en mai dernier, de pouvoir discuter avec deux membres du collectif du Loriot, donc deux auteurs de ce livre, une contributrice et l'éditrice de l'ouvrage. Alors que l'extrême droite n'a jamais été aussi proche du pouvoir, il convient, à travers ce livre et cette discussion, de se souvenir de la violence d'un gouvernement ultralibéral et la manière dont il a banalisé l'autoritarisme d'État, en attaquant non seulement les militants, mais aussi les institutions censées garantir l'État de droit. Un souci d'enregistrement ne rendra possible que la rediffusion d'une partie de la table ronde, mais celle-ci reste éclairante pour qui voudrait se plonger dans une analyse sociologique de l'événement que fut Sainte-Soline II. Bonne écoute à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour cette table ronde en ce week-end militant qui est quand même assez chargé parce que on a eu hier donc une grosse action à l'occasion de la GET Total. Donc il y a plein de militants qui sont allés rendre visite à Amundi qui est le principal actionnaire de Total. Et donc il y a quand même eu plus de 170 mises en garde à vue hier. Ce matin il y avait encore une soixantaine de personnes qui attendaient de sortir. Aujourd'hui, il y a une grosse action aussi en Île-de-France à Green Dock, à Gennevilliers, donc contre un immense entrepôt logistique. Voilà, donc c'est très chargé et donc c'est chouette qu'on puisse vous avoir dans ce contexte militant assez fort. Repenser à un événement qui a eu lieu maintenant il y a plus d'un an à Sainte-Soline. On a la chance d'avoir donc deux auteurs, une contributrice et une éditrice de l'ouvrage. Je vais vous présenter rapidement. Il y a Étienne Douat et Benoît Leroux. Vous êtes sociologue à l'Université de Poitiers et membre du collectif du Loriot. C'est quoi un Loriot ?
C'est un oiseau qui est un oiseau migrateur qui est en voie de disparition malheureusement et qui niche en partie sur le marais Poitevin. Et on l'a pris comme symbole pour porter notre cri parce que il est à la fois un peu il est en voie de disparition, il est aussi beau et il a un plumage jaune et noir et il est assez farouche aussi. Voilà. Il y aurait plein de choses à dire sur le Loriot mais je vais pas trop long.
Il y a Capucine Blouet, tu es membre de la Ligue des droits de l'homme. Tu as été à Sainte-Soline pour documenter ce qui s'est passé. Et tu as écrit un texte qui éclaire un des aspects de Sainte-Soline, et on en reparlera. Et Clara Laspalas, toi tu es une des éditrices de la maison d'édition La Dispute, et donc qui édite Avoir 20 ans à Sainte-Soline. Alors cette table ronde, elle dure environ une heure et demie. On est ici dans le cadre du Forum pour l'engagement militant qu'organise Extinction Rébellion et en compagnie de plein d'autres associations. Et donc l'ouvrage dont on va parler, pardon, il aborde souvent les raisons de l'action et de l'engagement pour contrer le portrait un peu uniformisant qu'on fait des militants et qu'on dresse souvent depuis l'extérieur. Et c'est un peu en ce sens de l'engagement qui sera le fil rouge de cette table ronde, avec cette question qui est posée par une des contributrices du recueil, pourquoi continuer à lutter quand le coût est bien supérieur au potentiel bénéfice? Alors c'est un peu radical comme question, mais dans le cadre de Sainte-Soline, ça se pose particulièrement. Avoir 20 ans à Sainte-Soline, c'est un ouvrage collectif qui a été publié donc sous la direction du collectif du Loriot et qui prend la forme d'un recueil de textes. Il y a des témoignages que vous avez recueillis de personnes qui ont vécu les manifestations aux abords de la bassine de Sainte-Soline le 25 avril 2023. Il y a aussi des textes écrits par divers acteurs de la manifestation, des universités, des personnalités de gauche. C'est assez riche. Et je voudrais commencer cet échange en lisant une citation de Bourdieu que vous mettez dans l'introduction de l'ouvrage. Alors, je cite, « Nous qui travaillons à produire de la vérité sur le monde social, nous essayons, pour être en accord avec nous-mêmes, pour ne pas être trop contradictoires et trop désespérés, de réfléchir sur la nécessité de nous unir pour donner collectivement un peu de force sociale à la vérité. » À partir de ça, je vous laisse peut-être chacun, chacune vous présenter rapidement et puis nous expliquer ce que ça veut dire pour vous, depuis votre place, de donner de la force sociale à la vérité.
Voilà. Merci beaucoup, merci de l'invitation, merci d'avoir organisé cette manifestation et cette rencontre. Donc je vais commencer à dire deux trois éléments de réponse à ta question et puis en même temps dire deux trois choses générales sur le bouquin pour que vous voyez un peu de quoi on parle. Donc ça va directement répondre un peu à ta question, mais l'idée effectivement face au récit médiatique dominant de Sainte-Soline le week-end du 25-26 mars 2023, l'idée du collectif qui se constitue assez rapidement après cet épisode historique, c'est de contribuer à documenter, à établir des faits croisés, des faits éventuellement contradictoires, des faits complexes qui ont été largement occultés dans le récit médiatique sur les grandes chaînes d'infos continues en particulier, mais pas seulement, hein, dans pas mal d'organes de presse, on a un récit qui occulte, enfin, qu'on pourrait décrire de trois façons, qui occulte largement l'hétérogénéité des manifestantes, des manifestants, de la composition de cette extraordinaire manifestation qui a réuni près de 30 000 personnes. C'est un récit assez violent aussi, on peut aussi commencer à parler de violence. Il a une violence, ce récit, parce qu'il occulte largement les raisons profondes, en fait, qui nous rassemblent, qui nous réunissent à Sainte-Soline, la question de l'eau, la question de la confiscation de la démocratie, la question de l'écocide en train de se faire, bon, et différentes questions sur lesquelles on va revenir. Donc toutes ces raisons sont largement occultées au profit d'une focalisation sur la violence, les deux heures de violence qui ont fait le gros du traitement médiatique de BFM et de quelques autres. Donc c'est aussi à partir d'une forme d'indignation, de colère en revenant de Sainte-Soline, quand on a écouté ce récit tronqué de Sainte-Soline, qu'on s'est mis en mouvement vers ce projet de croiser des récits, croiser des témoignages, des expériences diverses de Sainte-Soline, de personnes d'horizons divers, d'origines, de parcours militants, de parcours professionnels, de formations différentes, d'âges différents. Donc on va revenir aussi sur finalement la centralité de la jeunesse dans ce bouquin. Mais voilà un peu voilà quelques-uns des ressorts en fait qui nous ont mis en mouvement au lendemain de Sainte-Soline, et j'ai envie de dire le jour même de Sainte-Soline, en revenant dans la voiture, en écoutant les premières informations. Il y a cette colère qui monte, il y a cette idée que, en tant que sociologue, puisque c'est parti un peu d'un tropisme de sociologue, le Loriot, c'est essentiellement des sociologues et une collègue géographe également dans les six, c'est l'idée de contribuer à désarmer le récit, pour reprendre le terme de désarmement, mais de contribuer à la lutte, à poursuivre la lutte, en désarmant ce récit médiatique et en restituant la pluralité des expériences qui s'étaient... qui se sont déployés, qui ont été vécus à Sainte-Soline. Et puis, je vais faire tourner le micro, mais peut-être encore un mot, mais on va y revenir. L'intuition, l'hypothèse, c'était que Sainte-Soline était un épisode historique, qu'il y aura un avant et un après. Corinne Morel-Darleux le dit dans son chapitre en fin d'ouvrage, puisqu'elle nous a fait la gentillesse d'écrire un texte pour boucler l'ouvrage. Elle parle d'un avant et d'un après Sainte-Soline. L'intuition aussi de sociologue, tu parlais de Bourdieu, c'était que Sainte-Soline pouvait constituer un épisode formateur et transformateur majeur, à la fois au niveau des parcours, hein, qu'on peut saisir par le bas, on va y revenir, des trajectoires, c'est ce qui ponctue l'ouvrage, différents portraits.
Oui, on y reviendra.
Et aussi par le haut, on va y revenir, là je campe un peu le décor, mais un peu trop de manière un peu trop généraliste, mais, et par le haut, c'est-à-dire comment au niveau de l'agenda médiatique, de l'agenda politique, avec toutes les déceptions, les frustrations, le fait qu'on sente que ça ne va pas assez vite, et tu as rappelé l'actualité brûlante encore, mais malgré tout, les choses bougent, et Sainte-Soline, avec quelques autres événements ces deux dernières années, contribue à faire bouger les choses, à rendre légitime, par exemple, la question, le fait de parler de l'eau, c'est une question qu'on pouvait juger secondaire, technique, trop technique, la question des bassines. Il y a quand même eu une socialisation, un processus de socialisation collective qui a permis à un plus grand nombre, en tout cas qu'il y a deux ou trois ans, de se familiariser avec ces questions-là.
quelques éléments pour parler de notre force sociale qu'on développe en tant que sociologue. C'est vrai qu'on a, on arrive souvent après la bataille. On fait des études assez longues d'investigation, d'entretien. On essaie de recontextualiser les phénomènes sociaux et finalement on produit des articles qui sont lus par des spécialistes des sciences sociales, donc une minorité de personnes, et souvent après 2 ou 3 années après les événements. Là, on a pris le contre-pied de ça, et notre force, malgré tout, même si ce n'est pas un bouquin de sociologie, hein, c'est important de le rappeler, c'est un bouquin hybride entre la sociologie et le, on va dire, de témoignages, de lutte. Notre force, c'est quand même on sait faire des entretiens, on sait écouter les gens, rendre compte des trajectoires sociales. Et c'est ce qu'on fait à travers les 9 ou 10 portraits de ces jeunes qui se sont mobilisés à Sainte-Soline, hein, entre autres. C'est qu'on resitue les socialisations premières, secondaires, de ces jeunes, hein, c'est-à-dire comment ils sont socialisés aux questions politiques, par le lycée, par MeToo, comment ils ont pris conscience de l'enjeu qu'il fallait lutter contre les mégabassines, etc. Et on rentre aussi dans leur récit en resituant également les collectifs dans lesquels ils s'inscrivent. Ça, c'est une première chose qui fait qu'on a une petite force à ce niveau-là de savoir-faire et de lecture du monde social. L'autre chose, c'est qu'on arrive à quand même à construire un objet, là, un peu rapidement, mais ça fait un an. On a mis un an grâce à l'équipe de la dispute pour sortir ce bouquin. Mais on a aussi tout ce réseau de militants, militantes, de collègues qui viennent contribuer à ce bouquin. On est des anciens non-chercheurs, donc on connaît des juristes, on connaît des historiens, des historiennes, on connaît des militants, militantes. On est nous-mêmes, on doit le dire, hein, on est syndiqués, on est dans un contexte aussi politique et social. Sainte-Soline, en mars 2023, on est à la sortie d'un grand mouvement contre cette contre-réforme des retraites, dans laquelle on est très impliqués les uns les unes les autres, avec les étudiants et les étudiantes. C'est une autre chose que je voulais dire, c'est que finalement, ce bouquin, il se fait aussi dans ce contexte très particulier qui est le fait qu'on se prend sur la tête des coups par les forces de l'ordre, on est dans des manifestations, on bloque notre fac avec les étudiants et les étudiantes, et on se retrouve à Sainte-Soline avec les mêmes, ce qui fait que au sortir de Sainte-Soline, le débriefing, il se fait assez rapidement en disant il faut absolument qu'on parle de ce qui s'est passé par rapport à la lecture faussée et fallacieuse qu'en font les Darmanin et un ensemble de médias aux ordres, les médias dominants qui sont des médias privatisés, enfin bref, je ne reviens pas là-dessus. Et nous, notre enjeu, c'est de faire parler aussi ces étudiants, de ces étudiantes sur ce qu'elles ont vécu, sur ce qu'ils ont vécu. Et rapidement, on se rend compte que là, il faut faire quelque chose pour aller plus loin que ce récit qui était un récit de soulagement. Il fallait sortir la parole. On avait tous besoin de parler de ça, de cette violence, on y reviendra. Et progressivement, on se met à échafauder un projet d'ouvrage qui tournera principalement autour de ces jeunes et de cette parole qui est souvent tronquée, falsifiée, caricaturée.
Donc moi, je suis Capucine. J'étais là à Sainte-Soline pour observer le maintien de l'ordre. Et par rapport à ta question sur le fait de donner de la force à la vérité, moi, d'une part, en tout cas, mon travail dans ce cadre-là et en dehors du cadre de ce livre-là, ça a été de avec mes coéquipiers, documenter ce qui s'est produit à ce moment-là et de le faire de façon minutieuse, avec un travail de recueil de preuves, finalement, pour construire un contre-récit qu'on ne puisse pas attaquer, de par sa force probante. Parce que, en fait, à chaque minute, voire à chaque seconde, on explique ce qui se passe, on couvre toute la manifestation, on filme ce qui se passe également, etc. Et ça, en fait, je pense qu'on n'avait pas pris la mesure de l'importance, en fait, de ce travail-là avant de voir tout ce qui s'est passé derrière. Et notamment quand il y a eu les mensonges qu'on a tous entendus de la part du gouvernement. Et en fait, on s'est rendu compte que... donc nous, on a pas mal stressé pour rien vous cacher sur la rédaction de ce rapport, parce que avec toute la pression qu'on a subie, on s'est dit, faut pas qu'il y ait une seule ligne qui soit un peu floue, ou peut-être on aurait fait une petite erreur ou quelque chose comme ça. Et en fait, on s'est finalement rendu compte que, entre les menaces qu'on a pu subir de la part de Darmanin, d'Elisabeth Borne, de la décrédibilisation constante qu'on a subie, que finalement, en fait, on avait quand même réussi ce truc-là parce qu'on n'a pas, en tout cas jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à nous attaquer sur le fond de ce qu'on écrivait. Donc ça, c'est une chose. Et en fait, si on met ça un peu en miroir avec ce livre-là, ce que moi je trouve, enfin je trouve qu'il y a une certaine complémentarité dans cette idée de donner de la force à la vérité, c'est-à-dire que là en fait on a désigné des gens qui sont venus pour, il me semble que c'est le président qui a dû dire venu pour tuer du flic ou Darmanin, je sais plus, c'était Darmanin, ou le président c'était faire la guerre, enfin bon voilà, on a parlé d'éco-terroristes, etc. Et ça permettait, tout ce discours-là et toute cette rhétorique, elle permettait de justifier ce qui s'est produit et de légitimer ce qui s'est produit et finalement de légitimer absolument n'importe quoi, puisque quand on parle de terroristes, on le sait aussi bien juridiquement que dans les faits qu'on légitime tout et n'importe quoi. Et je trouve que là, l'idée, c'est de dire, mais en fait, regardez qui était là, regardez, ils vont vous parler directement. Et en fait, vous allez voir que c'est des personnes de tout âge, mais aussi très jeunes, qui sont venues parce qu'elles ont une force politique. Et ça, en tout cas, moi, de mon point de vue, je trouve que ça permet aussi d'éviter la dépolitisation qui est liée au fait de désigner ces personnes-là comme des criminels, comme des personnes qui, finalement, en veulent à l'État, veulent faire usage d'une violence débridée. Voilà, je m'arrête là parce que je pense que vous aurez plein d'autres choses à dire là-dessus.
Je vais dire un petit mot aussi sur nous, en fait, notre rôle d'éditeur. Parce qu'en gros, à la dispute, on est un éditeur indépendant, autonome et engagé. Et effectivement, c'est notre rôle de donner de la force à la vérité. Parce qu'en gros, en fait, le monde de l'édition, il est écrasé par des grands groupes capitalistes, style Bolloré qui rachète Hachette, qui ont des réseaux de distribution et de diffusion, qui ont des médias, qui ont des réseaux de vente. Et donc, en fait, toute cette pensée-là de droite des gros capitalistes, elle est diffusée partout. Et nous, notre rôle à notre échelle, en tant qu'éditeur indépendant, c'est aussi de faire ce travail-là. Effectivement, les livres, c'est pas des... ça changera pas le monde, mais en tout cas, ça pourra y contribuer. Ça donne des armes aux gens qui veulent changer le monde. Ça permet de débattre, d'échanger des idées, de faire vivre tout ça, quoi. Donc, voilà.
Je veux juste dire par rapport à l'édition, toi tu es modeste, mais en fait sans des éditeurs indépendants engagés comme ça, il n'y a aucun projet de ce type tel qu'on l'a construit cette année qui est possible. Donc il y a toute une chaîne, en fait il y a des collectifs, du bénévolat énormément, des éditeurs engagés qui prennent de gros risques avec des auteurs inconnus ou quasiment inconnus sur des questions qui sont, sur lesquelles on peut nous faire des reproches. Enfin, je veux dire, à l'université, dans le monde médiatique, ça devient compliqué de traiter certaines questions. Donc, c'est aussi exposant, on va dire, pour le dire sobrement, de se lancer dans ce type de travaux d'écriture. Et puis, je voudrais dire aussi tous les acteurs dont vous faites partie, qui nous recevez aujourd'hui, les librairies indépendantes. Il y a toute une chaîne comme ça, tout un collectif, en fait, qui rend possible. Je pense qu'on est des centaines, en fait, à avoir bossé sur ce bouquin, en réalité, entre celles et ceux qui ont accepté de témoigner. Tous les gens comme Capucine et une vingtaine d'autres qui ont fait ce travail d'écriture, de témoignage qui est exposant, qui est compliqué. Vous qui nous donnez la parole, qui permettez de partager les résultats de ce travail et puis tous ces libraires. Donc voilà, et la dispute fait partie de ce collectif.
Est-ce qu'on peut dresser le paysage de votre travail, quoi, dans lequel vous avez mené ces enquêtes, ces constatations, ce travail d'édition? Qu'est-ce qui s'est passé en mars dernier à Sainte-Soline, juste pour qu'on ait un peu le contexte pour ceux peut-être qui ne se rappellent pas ou bien qui ont besoin d'un petit rappel?
Bon, je vais pas épuiser. Puis je pense que, est-ce qu'il y en a qui étaient à Sainte-Soline ici? Juste qu'on ait une petite idée. Donc Sainte-Soline, c'est la deuxième grande manifestation. On a eu une fin octobre 2022 contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres. Donc ces projets de méga-bassines, vous les situez, j'imagine que vous avez lu sur ce sujet. C'est la principale critique qu'on peut faire à ces bassines, à ces grands chantiers. En réalité, ils dialoguent avec d'autres grands chantiers dont on pourrait parler, l'A69 et bien d'autres. Ce sont des chantiers qu'on peut juger totalement inutiles et totalement contraires au sens de l'histoire, en tout cas tel qu'on la défend, puisqu'il s'agit de pomper dans les nappes phréatiques pour des millions de mètres cubes pour alimenter une agriculture, un agro-business essentiellement tourné vers les céréales, essentiellement tourné vers l'export. Donc on n'est pas loin dans les Deux-Sèvres du port de La Rochelle. Donc on est avec ces bassines en train d'épuiser des ressources qui sont des ressources communes, qui sont accaparées, qui sont privatisées, qui sont mises au service d'un système agro-industriel qui a massacré, on parlait du Loriot tout à l'heure, pas mal de notre système, de notre milieu vivant, de zones humides, de tout un écosystème qui est en train d'être, notamment par ce système des bassines et par ce type d'agriculture et tout ce qui va avec en termes de pesticides et autres. Donc c'est contre tout ça que les gens sont venus se réunir une première fois en octobre 2022 et puis cet épisode historique de mars 2023. On parle de 30 000 manifestants, ce serait 20 000, ce serait aussi massif. Peu importe, il y a une querelle des chiffres. En tout cas, quand on y est, on voit bien que c'est historique, que c'est massif.
Thank you.
Alors Sainte-Soline, je vais laisser les camarades compléter, mais Sainte-Soline, c'est pas que la manifestation du samedi, c'est aussi tout un travail de préparation, en réalité des mois de travail, tout un travail aussi des organisations de la Confédération paysanne, des soulèvements de la terre, de Bassine Non Merci, bien sûr, qui ont préparé cet événement. C'est des semaines, c'est des mois de boulot. C'est aussi la veille et l'avant-veille un camp, un campement, des moments festifs, des moments de formation, des moments de solidarité, de création de liens militants, amicaux, très forts et qui vont perdurer et qui permettent aussi de comprendre le terreau aujourd'hui qui est en place et qui y a eu l'été dernier encore une... comment ça s'appelait l'épisode de Le convoi de l'eau, pardon. Le convoi de l'eau. Cet été, il y a encore une manifestation en juillet. Donc, il y a comme ça la création d'un maillage, un répertoire de l'action qui est en train de se retravailler. On y reviendra parce que ça fait partie des effets de socialisation de Sainte-Soline, qu'on peut associer à cet épisode historique. Peut-être encore deux, trois mots rapidement. Ce qui est frappant avec Sainte-Soline, c'est... Alors l'articulation, ça fait des années qu'elle se travaille, mais l'articulation franche entre la question sociale et la question écolo, pour le dire très, très sommairement, mais c'est quand même un épisode, je pense, dans la socialisation politique dans laquelle nous sommes embarqués. C'est une dimension importante, ce croisement des questions. Il était déjà à l'œuvre hein, dans les ZAD à Notre-Dame-des-Landes et ailleurs, mais je veux dire, voilà, c'est très marquant de ce point de vue-là. C'est aussi le croisement des générations. On a une entrée dans le bouquin d'ailleurs autour de la transmission. Comment Sainte-Soline, son avant, son après, constituent un contexte de transmission entre générations en matière de savoir-faire militant, en matière de répertoire d'action, de manière de s'engager, de manière d'envisager la lutte. Donc Sainte-Soline, ça pourrait aussi être considéré sous cet angle-là, comme un moment de transmission, comme un moment de socialisation particulièrement décisif. Mais j'oublie plein de choses.
C'est plutôt ouais, concrètement, voilà, il y a eu donc c'est arrivé la veille ou bien le jour même de la manifestation le samedi, et puis le soir une rencontre festive, et le lendemain des conférences et des choses comme ça. Ouais, donc à la suite de cette manifestation, il y a eu un déballement médiatique extrêmement important, et donc pour répondre à la nécessité de rétablir les faits, c'est ce que vous dites, vous avez choisi de, alors vous les sociologue, vous êtes allé à la rencontre de 9 participantes à la manifestation de Sainte-Soline et vous avez mené des entretiens sociologiques avec elles et eux. En tout cas, des entretiens qui sont toujours restitués en commençant par dresser le portrait sociologique de la personne, donc son origine sociale, sa socialisation politique, son mode d'engagement militant en général et aussi spécifique à Sainte-Soline parce que c'est pas toujours le même. Qu'est-ce que ça permet, ces portraits sociologiques, et voilà.
Ça permet surtout, alors là on est inspiré par, on a déjà cité Bourdieu, on va le reciter. Il y a un bouquin célèbre de Bourdieu qui s'appelle La misère du monde, où en fait, qu'il a dirigé avec, il y a au moins une quarantaine, peut-être une trentaine de contributeurs, contributrices dedans. En fait, La misère du monde, c'est à chaque fois une entrée avec une petite biographie d'une personne, alors un salarié agricole. Voilà, un entretien qu'avait fait Patrick Champagne concrètement. Et donc chaque sociologue retrace la trajectoire de la personne pour permettre aussi, comme je disais tout à l'heure, de mieux comprendre comment ces jeunes se sont inscrits dans la lutte et à partir de d'où ils portent ce combat. Et nous, en fait, on a repris cette idée. Et alors c'est quelque chose qui permet finalement, en l'espace de 7 ou 8 pages, alors on fait un portrait sur 2-3 pages, même pas, hein. Et ensuite on a du verbatim, ce qu'on appelle le verbatim, c'est on laisse la personne dire ce qu'elle a à dire, et donc on a des pages d'entretien complet, et c'est assez captivant, surtout sur ce type d'événement où en fait nos entretiens, c'était assez émouvant de les entendre parler comment elles avaient vécu ça. Alors, sachant que tous nos entretiens, on avait une grille d'entretien quand même aussi qui était cadrée, où on a des questions concrètement sur l'avant avant Sainte-Soline, l'enfance, la socialisation politique au lycée, les précédentes manifestations contre la loi travail, etc., ou précédentes encore. Et puis ensuite, comment vous arrivez à Sainte-Soline, en binôme, tout seul, est-ce que vous, et puis comment vous vivez Sainte-Soline concrètement, est-ce que vous restez le lendemain à Mel, etc. Donc, et après, comment vous vivez aussi l'après Sainte-Soline, c'est-à-dire le traitement médiatique, comment vous recevez tout ça. Ce qui nous a permis aussi, alors pour compléter, on a finalement, on a 9 entretiens qui ressortent, on a fait une quarantaine d'entretiens avec ces jeunes, sans pouvoir faire une enquête sociologique digne de ce nom, on a quand même essayé d'élargir un peu les différents profils, et on a gardé ces 9 qui nous paraissaient être assez représentatifs d'une hétérogénéité, parce que ce qui était l'enjeu pour nous, c'était de casser ces